De retour avec notre chroniqueuse de politique internationale, Eugénie Lambert. Bonjour, Eugénie.
Bonjour, Xavier.
Alors, aujourd'hui, Eugénie, on va parler d'Ukraine. Oui, on entend parler souvent d'Ukraine en ce moment à la télévision, à la radio, et on le lit dans les journaux. Peux-tu nous faire un petit récapitulatif, Eugénie, du conflit ukrainien?
Tout à fait. Alors, ma chronique s'appelle aujourd'hui « L'Ukraine, où en est-on ?» parce que je sais quelques semaines, nous n'en entendions plus parler de la crise en Ukraine, et pourtant, les combats n'ont pas cessé, et c'est seulement au mois de janvier qu'ils se sont intensifiés. Alors, quel est le bilan actuel de la situation en Ukraine? La crise ukrainienne, pour revenir en arrière, a débuté le 21 novembre 2013 à la suite de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Des manifestations de grande ampleur se déclenchent alors et aboutissent le 22 février 2014 à la fuite puis à la destitution du président Viktor Yanukovych. Un nouveau gouvernement est mis en place et en réaction, la Crimée proclame son indépendance et vote pour son rattachement à la Russie, qui sera d'ailleurs reconnue par la Russie elle-même, provoquant ainsi une crise diplomatique internationale. Alors, il y a aussi plusieurs autres provinces ukrainiennes à forte population russophone, notamment le Donbass, qui vivent des soulèvements similaires et organisent à leur tour des référendums d'autodétermination un peu partout en Ukraine afin de se séparer donc du gouvernement ukrainien en place. Alors, il y a aussi l'annexion illégale et illégitime de la Crimée par la Russie, ainsi que le soutien constant fourni par Moscou aux forces subversives, de l'est de l'Ukraine, qui représente le plus sérieux des défis pour le système international depuis la fin de la guerre froide, et j'insiste là-dessus. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un pays européen emploie la force pour s'emparer d'une partie du territoire d'un autre pays, plus petit, sous prétexte de la défense de sa minorité nationale. Et il faut savoir aussi, information qui n'est pas souvent d'ailleurs soulignée, qu'une armée de près de 600 blogueurs et commentateurs qui sont payés par Moscou travaillent quotidiennement au sein des réseaux sociaux et médias électroniques, y compris occidentaux, pour influencer l'opinion des internautes.
D'accord, on comprend donc que les Européens sont très nerveux, puisque évidemment, on se souvient des événements avant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait toujours ce problème de minorité au sein d'un autre pays, et donc cela cause des tensions. Et j'imagine que, bien entendu, ce refus de l'Ukraine s'en allait pour signer un accord avec la communauté européenne, et puis évidemment, les Russes qui habitent en Ukraine, on peut penser qu'ils étaient contre. Hein. C'est un petit peu ça l'origine du conflit.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a des populations en fait qui sont très russophones en Ukraine, ce qui crée vraiment une question de est-ce que ces populations devraient partir aussi pour habiter là-bas, est-ce qu'elles ont raison et elles devraient avoir raison et justement constituer leur propre État qui serait rattaché à la Russie, mais au sein de l'Ukraine.
Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions, Eugénie?
Alors, oui, effectivement, plusieurs solutions. Donc, la première, le 11 mars 2014, il y a 100 pays du monde entier qui ont fait adopter par l'Assemblée générale des Nations unies une résolution soutenant l'intégrité territoriale de l'Ukraine et déclarant le pseudo-référendum organisé en Crimée qui était illégal et illégitime. Alors, seuls 11 pays ont voté contre l'adoption de cette résolution, pays dont la liste est révélatrice, outre la Russie, c'était notamment la Corée du Nord, la Syrie, le Soudan, le Zimbabwe, le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, pardon, et la Bolivie.
Donc des pays qui sont un petit peu influencés, c'est ça, par la Russie.
Voilà, c'est ça, des pays qui subissent une légère influence de la Russie. Voilà. Et puis, donc au-delà de cette adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de cette résolution, il y a aussi les accords de Minsk, les premiers qui ont été signés le 5 septembre 2014, donc dernier. Et puis, je reviendrai un tout petit peu plus tard sur les accords qui ont été signés le 12 février dernier et mis en place le 15 février, les accords de Minsk 2.
Il y a la situation de la Crimée, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça. Situation très complexe, d'ailleurs, Xavier. Je vais revenir, d'ailleurs, maintenant dessus. Donc, pour bien comprendre ce qui s'est passé avec la Crimée et comment, au final, elle a réussi à se détacher de l'Ukraine, il faut d'abord revenir donc à fin janvier 2014. Le ministre de l'Intérieur par intérim de l'Ukraine dénonce l'occupation de deux aéroports de Crimée par des hommes armés qu'il identifie comme des soldats russes, ce que le Kremlin ne précise pas. À la suite de cet événement, le Parlement ukrainien fait voter une résolution appelant la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis à respecter le mémorandum de Budapest visant à garantir l'indépendance de l'Ukraine en échange de ce renoncement aux armes nucléaires. Et puis, le Premier ministre de la République autonome de Crimée demande ensuite à la Russie d'intervenir militairement au motif que des hommes armés, donc non identifiés, auraient attaqué le ministère de l'Intérieur de cette république autonome au sein de l'Ukraine. Donc faisant suite à la demande du président russe, Vladimir Poutine, le Conseil de la Fédération approuve le déploiement des forces armées dans cette région autonome. Et donc c'est là qu'à partir de ce moment, la Crimée commence à être perdue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la base navale stratégique de Sébastopol, c'est en effet un élément primordial du système de défense russe, lui conférant l'accès à la Méditerranée et aux mers chaudes.
Et oui, c'est toujours le thème de l'accès aux mers chaudes pour la Russie. Tout au long de son histoire, la Russie a essayé justement d'avoir des accès vers la Méditerranée, vers le sud, des accès de par voie maritime.
Exactement, elle essaye justement de gagner du terrain sur les bords donc de ces mers chaudes. Alors, il y a 6 000 hommes de troupes qui renforcent donc le contingent russe de Sébastopol. L'effectif de l'engagement russe en Crimée étant estimé à 20 000 hommes. Et puis, les États-Unis, évidemment, Washington estime que la Russie a atteint le contrôle opérationnel de la Crimée à ce stade-là. Le 6 mars, le Parlement de la Crimée demande à Moscou son rattachement à la Russie. Le décret est signé. Et puis, un référendum aura lieu le 16 mars. Et donc, le 17 mars 2014, après que la population criméenne se soit prononcé la veille à une très large majorité en faveur d'un rattachement à la Russie, le Conseil suprême de Crimée réaffirme l'indépendance de la péninsule. Et donc là, c'est la fin. Elle demande son rattachement à la Russie, qui accepte, et donc le traité est signé. La République de Crimée est la ville d'importance fédérale de Sébastopol. Alors, suite à ça, il y a aussi un autre événement qui se passe, très important par rapport à cette crise ukrainienne. Et une première, je dois le dire, c'est donc l'accident du vol Malaysia Airlines MH17.
C'est ça, ça s'est passé en juillet dernier, il me semble.
Exactement, ça s'est passé le 17 juillet 2014. Le vol 17 Malaysia Airlines, qui était un vol international régulier reliant Amsterdam et Kuala Lumpur, s'est écrasé dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes, alors opposés lors de la guerre de Donbass, s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'appareil. Les 298 occupants de l'appareil qui assuraient la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur ont péri dans la catastrophe, dont en fait on a appris ensuite qu'il y avait un bon nombre aussi de grands scientifiques et de chercheurs qui allaient à une conférence sur le sida justement là-bas et qui évidemment ont péri dans cet accident.
Alors qui est accusé de cet attentat?
Alors, le président russe est dans la ligne de mire. Vladimir Poutine a été jugé coupable par les États-Unis de la destruction du Boeing 777 de Malaysia Airlines au-dessus de la zone de guerre dans l'est de l'Ukraine. Donc tout de suite, tous les regards se sont portés vers le président russe.
Bien des déboires dans les négociations, mais maintenant, où est-ce qu'on en est maintenant finalement?
Alors voilà, c'est le moment de faire le bilan après plusieurs semaines de discussions. Il y a eu une rencontre franco-allemande il y a 2 semaines avec Vladimir Poutine, un coup de téléphone à 4 à Minsk, donc la capitale biélorusse. Un accord de Minsk 2 a finalement été signé le 12 février et est entré en vigueur le 15 février. Donc c'est vraiment un accord de cessez-le-feu. Les parties devaient trouver un accord sur une série de dossiers allant du retrait des armes lourdes de la zone de combat au statut des régions séparatistes aidées par Moscou. Et donc, cet accord est inspiré évidemment du premier accord de Minsk qui n'a pas été respecté le 5 septembre dernier. Et le nouveau texte n'évoque ni la fédéralisation ni la neutralité de l'Ukraine. Il respecte l'intégralité territoriale de l'Ukraine, mais il héberge en son sein une bombe à retardement, c'est le contrôle de la frontière russo-ukrainienne.
Et voilà, alors, tout dépend de où on va marquer, on va délimiter la frontière, n'est-ce pas?
La frontière, voilà, c'est le cœur du problème de la crise ukrainienne. Les Russes ont obtenu donc un contrôle total sur l'est du pays, avait expliqué à ce moment-là donc une source proche des négociateurs ukrainiens. Et puis, donc sans contrôle, les frontières entre le Donbass et la Russie risquent en effet d'être effacées par Moscou et par les séparatistes qui prendraient donc tout le contrôle et puis referaient un peu les frontières à leur sauce.
Et ce, malgré que pendant à Minsk, on a pourtant quand même tracé une frontière, mais donc ce n'est pas respecté, c'est ça?
Ce n'est pas respecté, voilà. Et en plus, plus de ça, si l'on en croit ce que Kiev a pu raconter ces derniers jours, c'est qu'une cinquantaine de chars et d'autres équipements lourds, notamment des lance-roquettes, ont pénétré en Ukraine depuis la Russie en plein milieu des négociations. Donc vraiment, on sent que personne ne veut, en tout cas du côté russe, ils ne veulent pas respecter l'accord. Donc si le cessez-le-feu est respecté, l'Est ukrainien pourrait devenir un conflit gelé, comme la Transnistrie, pardon, en Moldavie. Et puis, il y a donc un statut qui affaiblit le gouvernement central et empêche tout rapprochement avec des alliances internationales comme l'OTAN, la principale ligne rouge de Moscou.
Et c'est ça que Moscou n'aime pas, justement, hein, c'est que cette peur de voir l'Ukraine se joindre à l'OTAN des forces occidentales.
Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Elle a toujours peur que l'Ukraine se joigne à l'OTAN, ce qui est toujours au jour d'aujourd'hui possible. Mm-hmm. La semaine dernière, on a appris aussi la prise par les séparatistes de la ville de Debaltseve, pardon pour ma prononciation. Le président ukrainien Petro Poroshenko avait d'ailleurs déclaré que la prise par les séparatistes de la ville de Debaltseve était contraire à l'accord de cessez-le-feu conclu à Minsk. Et puis, il y a deux jours, une explosion meurtrière a eu lieu dans l'est de l'Ukraine. 3 personnes ont été tuées et plus de 10 autres blessées par l'explosion d'un engin lors d'une marche patriotique à Kharkiv, une ville de l'est de l'Ukraine située donc à 200 km de la zone de combat avec les rebelles pro-russes.
Que va-t-on faire aujourd'hui, penses-tu?
Aujourd'hui, mardi 24 février, les chefs de la diplomatie donc française, allemand, russe et ukrainien se retrouvent à Paris. Pour tenter d'apaiser le conflit dans l'est rebelle de l'Ukraine, où les attaques des forces séparatistes se poursuivent près du port stratégique de Mariupol. Donc cette fois, on parle plus de Kharkiv, on parle de Mariupol. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir les séparatistes en leur fournissant des armes et des troupes. Et puis Moscou nie farouchement, évidemment, toute implication dans ce conflit qui a fait plus, je dois quand même le rappeler, 5700 morts en 10 mois. Aucun document n'est prévu pour être signé aujourd'hui à Paris. A priori, c'est juste un rappel donc ce qui a été dit pour l'accord de cessez-le-feu. Et puis en Ukraine, beaucoup craignent que Mariupol, sur les bords de la mer d'Azov, ne devienne la prochaine cible des séparatistes. Kiev accuse ces derniers d'accumuler des troupes et des armes à proximité de ce port stratégique. Et puis donc, malgré un calme relatif sur l'ensemble de la ligne de front, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Shirokin, à une quinzaine de kilomètres de Mariupol. Donc vraiment, pour l'instant, c'est un conflit. On sent que les Russes gagnent du terrain peu à peu. Ouais. Ils marchent en fait par siège, ils essayent d'obtenir des villes en créant donc un siège en fait dans la ville et qui tombe aux mains des pro-russes et voilà.
Et voilà. Et donc cette zone de conflit est très proche de l'Europe, puisqu'on est en Europe. Évidemment, on se souvient que tous les problèmes de frontières en Europe, on est très sensible à ce sujet-là, de respecter aussi les minorités. C'est un conflit qu'on va surveiller de près, certainement, et on va voir justement si les rebelles pro-russes avancent toujours, continuent d'avancer, et on assiste malheureusement au morcellement d'un pays qu'est l'Ukraine.
Exactement. Et puis on verra les sanctions que les pays européens et surtout les États-Unis veulent infliger à la Russie.
C'est ça. On sait qu'en ce moment, il y a des sanctions financières qui sont imposées aux gens qui sont proches de Vladimir Poutine, mais ça ne semble pas vraiment porter fruit.
Exactement.
Eh bien, je te remercie, Eugénie, pour cette chronique. On se retrouvera certainement la semaine prochaine sur un autre sujet de politique internationale. Bonne semaine.
Exactement. Bonne semaine, Xavier. Merci.
Et nous, on continue sur les ondes de Choc FM en musique.